de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
De la peinture à la psychanalyse, du théâtre à la musique, du cinéma à la bande dessinée, l'Iliade et l'Odyssée ont fourni un nombre inouï d'interprétations, de situations fictionnelles nouvelles et de personnages de romans, dont Ulysse est sans doute la figure la plus connue, de Dante à Joyce, de Garnier à Éric Emmanuel Schmitt. Il existe de nombreuses traductions de l'Iliade et l'Odyssée, un des livres fondateurs de notre culture dont tous les arts et toutes les sciences humaines se sont emparés. Professeur de grec ancien à l'Université de Rouen, chargé de conférences de métrique grecque à l'École pratique des hautes études, Philippe Brunet, qui dirige également la compagnie de théâtre antique Démodocos, a traduit l'Iliade pour les éditions du Seuil. Marie-Hélène Fraissé l'avait reçu en 2010 dans l'émission Tout un monde.
Tout un monde.
Marie-Hélène Fraissé.
Le magazine des cultures et des identités en mouvement. Deuxième émission sur les textes fondateurs. La dernière fois, c'était le Kalevala. Aujourd'hui, plongé dans le monde foisonnant d'Homère, l'Iliade. Mille vers, 24 chants, l'Iliade est l'un des monuments de la littérature universelle, l'un de ses textes fondateurs qui appartiennent au patrimoine mondial et qui sont d'ailleurs désormais au programme des écoles. Mais derrière l'aspect un peu intimidant de toutes ces appellations, reste-t-il un texte vraiment accessible, palpitant, vivant, capable d'émouvoir, d'interpeller, de solliciter l'imagination d'un lecteur contemporain? Est-ce que toutes ces histoires de batailles sur les remparts de Troie, histoires de jalousie, de trahison, de jeux de cache-cache avec des divinités sourcilleuses, ambiguës, elles-mêmes en proie aux passions, Zeus, Aphrodite, Apollon, est-ce que tout cela résonne encore pour nous? Réponse dans l'heure qui suit avec Philippe Brunet, auteur d'une nouvelle traduction de l'Iliade, et avec Jean-Pierre Siméon.
Pour moi, Homère est fondateur dans mon propre imaginaire, parce que très jeune, j'ai lu l'Odyssée, l'Iliade, et d'ailleurs pour moi tout se confond dans une sorte d'immense fantasmagorie de formes, d'inventions. Et quand j'étais adolescent, je lisais ça, je lisais l'Odyssée comme je lisais Tintin. C'était une sorte de grande... invention d'aventure comme ça, enfin voilà. Et alors bien sûr que on est très très tôt, je crois, pour ceux qui sont confrontés au monde grec en général, on est très tôt séduit parce qu'il y a un esprit d'enfance dans la littérature grecque. Il y a quand même toujours quelque chose qui passe la raison raisonnable. Il y a du grandiose, il y a du fabuleux, il y a du monstrueux, et ça c'est vraiment très très séduisant. Et au-delà de ça, très vite, l'enfant, il comprend la radicalité des questionnements qu'il y a dans toute littérature grecque. Alors, dans Homère, évidemment, parce qu'on sent que derrière les péripéties, et Dieu sait qu'il y en a, et on se donne volontiers à ces péripéties, derrière tout ça, il y a toujours des questions immédiatement présentes, qui sont celles, évidemment, éternelles, et donc très contemporaines, des questions de première sur... l'identité, évidemment, vous voyez, dans l'Odyssée, c'est constant, sur le lieu où l'on doit être, sur la présence des forces supérieures à l'homme et comment il se coltine avec ces forces-là. Et puis, il y a toujours tout ce qui relève de la relation humaine dans ses formes les plus radicales. L'amour, passion, la violence qui peut être de haine, évidemment, de jalousie, le remords, la nostalgie, enfin voilà, tout ce qui fonde très fortement, qui structure, je pourrais dire, la vie de chacun, au fond.
Voilà, pas de doute, pour Jean-Pierre Siméon, Homère est indispensable. Indispensable aussi pour Philippe Brunet, qui est avec nous dans ce studio. Bonjour Philippe Brunet.
Bonjour.
Vous êtes helléniste, vous êtes l'auteur d'une nouvelle traduction de l'Iliade qui vient de paraître au Seuil. Vous avez une approche du texte qui est très différente de la plupart des spécialistes de la Grèce antique, puisque vous dites Homère. Dans le texte, vous le chantez, vous le dites en français dans cette traduction qui se veut une traduction fondée sur l'oralité d'Homère. Vous êtes donc dans l'espace homérique, l'imaginaire homérique, la forme homérique, on peut dire à temps complet, et ce, Philippe Brunet, depuis 25 ans.
Oui.
Je ne veux pas vous accabler.
Voilà. Voilà, et donc je me retrouve au Seuil. Et un jour, j'ai pensé, en passant devant la librairie, qui à l'époque était encore dans le 6e, qu'il y avait quelque chose à voir entre le Seuil et l'Iliade. Et l'Iliade, c'est une sorte de seuil. C'est un seuil pour nous. Et puis que peut-être qu'il fallait un jour aussi donner le livre à lire. Et pas seulement le dire, même si toutes ces dernières années, c'est surtout ce que j'ai fait. Parce que le dire, c'est en même temps le reformuler, le changer. Et Homère est toujours nouveau. Il mérite d'être toujours changé. Et les gens qui ont dit Homère dans l'Antiquité, on les appelait les chanteurs, les aèdes, ou bien les espèces de rapièceurs, les rhapsodes, ceux qui cousaient les morceaux de la légende et du mythe, ou la légende héroïque, eh bien ces chanteurs transformaient toujours. Et donc c'était un peu être pris au milieu de ce tourbillon, avoir ce texte à faire venir dans la langue française, à implanter, à faire petit à petit, à lui faire une place dans le rythme, dans les sons aussi, pour que les noms qui se sont acclimatés depuis longtemps, grâce aux poètes, aux écrivains, pour ça que je dis toujours Achille, et même si en grec c'est Achilleus, parce que quand le comte de Lille dit Achilleus, j'ai l'impression de quand même...
C'est un peu bâtard finalement, c'est une sorte de francisation à moitié.
Voilà, alors il faudrait dire vraiment le grec ancien Achilleus, et dans ce cas-là avec l'intonation, avec le rythme, avec toute l'aspiration qu'il y a dans les occlusives, qui fait que ces gosiers étaient encore, pouvaient encore dire cela, nous l'avons parfois perdu, ou alors revenir à la douceur du français qui avait déjà acclimaté un grand nombre de noms, Achille, Ulysse... Aîné n'est pas facile à mettre dans un texte. Aîné, parce que Aeneas, et en latin aussi. Voilà, j'ai gardé aîné.
Aîné, c'est un son un peu fermé, alors qu'Aeneas, comme vous le prenez,
voilà,
c'est
voilà.
Ouvert.
C'est trois syllabes, c'est trois longues. Aeneas, c'est sûr. Mais aîné, est-ce qu'on pouvait le changer? Parce que je ne voulais pas non plus aller trop prendre à rebrousse-poil les gens, la mémoire qu'ils avaient des noms, parce qu'en fait, c'est leur enfance. Comme l'a rappelé Jean-Pierre Siméon, c'est notre enfance que nous revivons à travers ces mythes, ces légendes et les noms simplement.
On va tout à l'heure y entendre Jean-Pierre Siméon. Lui, on va dire qu'il fait partie de l'école de ceux qui adaptent C'est-à-dire qu'il a notamment une pièce qui a rencontré un très grand succès l'an dernier, Philoctète. Auparavant, il avait écrit une autre pièce, Odyssée, dernier chant. Donc Homère, il nous l'a bien dit, le nourrit, mais il adapte, il le fait sien en quelque sorte. Alors que vous, Homère, vous allez vers lui, c'est-à-dire que vous allez le chercher là où il est, dans ses millénaires, et vous le faites revivre tel que. C'est ça votre effort, et à partir de quel moment ce projet est-il arrivé dans votre vie ?
Le projet, alors c'est très daté, hein, c'est très un jour de 1981, je suis dans un café au Soufflot, je rencontre quelqu'un qui est à peu près mon âge, il s'appelle André Markovitch, il traduit Catulle, on se récite du latin, du russe, de l'allemand, enfin moi de l'allemand, lui du russe, et lui surtout du latin et moi surtout du grec, et puis comme il traduisait en adaptant à la russe les poèmes de Catulle, il me dit « tu ne veux pas traduire l'Iliade ». Et puis, il fallait le temps que la chose puisse devenir possible en moi, que je puisse l'entendre en français. C'est pas facile au début. Est-ce qu'on a, on a l'habitude de compter des syllabes? Est-ce qu'on peut avoir des temps comme ça dans le français, avoir une régularité, une mesure battue dans le. Voilà. Et donc, je suis passé par l'allemand. Et c'est vrai que on a toujours envie de revenir, de traduire ces poètes anciens. Et on ne sait pas comment faire. On se rend compte que autrefois on avait l'alexandrin, mais l'alexandrin rimé traînait derrière lui toute une tradition qui n'était plus tout à fait la nôtre, dont on s'était déjà éloigné. Et malgré Chénier, malgré Racine, malgré tous ceux qui font notre bonheur, et malgré le vers libre de La Fontaine et ses modules syllabiques comme ça, changeants, variables. Et donc on aspirait à autre chose. On aspirait en fait à une poésie quantitative.
C'est-à-dire ?
C'est une dimension que le vers libre a pris à la fin du 19e, début du 20e, l'expérience de Ezra Pound, par exemple, qui a beaucoup théorisé ça dans la poésie de langue anglaise. Il y a la possibilité, par la liberté, en cassant les moules réguliers, les octosyllabes, décasyllabes, alexandrins, de revenir à une poésie purement musicale, où des cellules rythmiques pourraient s'engendrer. Et si on peut produire des cellules rythmiques en français, alors pourquoi ne pas tenter de transposer, comme on l'avait fait à la Renaissance, les maîtres grecs et latins.
Alors cette élaboration, elle a pris beaucoup d'années, avant que vous vous jetiez à l'eau, à la fois pour entamer la traduction, comme vous la conceviez, et pour la mettre aussi par écrit.
Oui, parce qu'il fallait d'abord, j'ai essayé par des petits morceaux. Les petits morceaux, je les ai pris chez Sappho, qui était déjà réduite en morceaux, la malheureuse. Et donc j'ai commencé par ces petits bouts-là. Et puis ensuite, j'ai traduit des extraits d'Hésiode. Je dis Hésiode, j'arriverai peut-être à le faire. Et puis si je peux mettre tous les noms qu'il y a dans Hésiode, alors j'aurai déjà l'outil pour traduire Homère. Sachant que Homère, il fallait accéder à une certaine légèreté, à une dynamique que n'avait pas Hésiode. Donc c'était mon travail un petit peu préparatoire. Et puis il fallait vraiment que ça marche, que j'arrive, que je le croie possible. Et un jour, j'ai pu comme ça traduire le début, enfin une cinquantaine de vers, d'un seul coup. Donc je me suis dit, bon, c'est possible, mais il faut voir encore. Sur le long terme, est-ce que tous les noms propres, qui sont au cœur même de l'hexamètre et de l'épopée, qui a pour fonction de chanter le héros, est-ce que ces noms Agamemnon, Achille, ils vont pouvoir rentrer dans le vers ? Agamemnon, est-ce qu'on va pouvoir le dire comme ça ? Ou est-ce qu'il faut le dire autrement ? Atride ? Ou Atréide, ce qui m'est venu plus tard.
Alors on va entendre, oui. Philippe Brunet, dans quelques instants, la manière à la fois dont vous le chantez en grec et dont vous le dites en français. Mais on peut imaginer que dans cette entreprise, comme vous enseignez le grec à l'université de Rouen, vous avez été stimulé par vos étudiants, par leur enthousiasme et au point d'ailleurs d'avoir créé une petite compagnie qui s'appelle Demodokos et qui donc va un petit peu partout en France, peut-être même hors de France, pour présenter ces spectacles homériques.
Voilà, ça, on l'a créé en 95 avec la bénédiction de Jacqueline de Romilly et qui nous a beaucoup soutenus. Et on a commencé par Homère. L'Odyssée plus que l'Iliade. C'est vrai que l'Odyssée se prêtait plus à une dramatisation, à une mise en scène. Mais ensuite, on est passé à Eschyle tout de suite. Donc Agamemnon, l'Orestie, puis Sophocle, l'Antigone, ça c'est notre répertoire. Et on joue également donc l'Iliade. On a fait de grandes lectures dès que ça a été possible. Et ce qui est important, c'était de mettre des jeunes gens, étudiants de l'université où j'enseignais autrefois à Tours, ou aujourd'hui à Rouen, ou à la Sorbonne, ou à l'école normale, où je donnais des cours, de leur permettre d'être en contact avec la matière. Et en restituant cette matière dans la langue ancienne...
Et dans là, son émotion.
Dans l'émotion, évidemment, évidemment. Mais l'émotion, elle passe beaucoup par la langue, par les phonèmes.
Si on écoutait Philippe Brunet, ce que ça donne ?
As de protos telamonius andra catecta sarpedontus hetairon epicleag megatymon marmaroio crioventi balon horateceos entos Ito megas pare palxin upertatos, ode chemin rea. Ceires ampo cireis ecuianer, ode malhebon. Hoi num brotoies hoda rypsoten embar aeras. Tlasse de tetrapalon cuneem syndoste araxe. Pantamudisce pales hoda rarneuteri weoikos. Capes apipsello purgu lipedoste atomos.
L'Iliade par Philippe Brunet. Vous écoutez Tout un monde sur France Culture. Philippe Brunet s'accompagne à la lyre. On va parler un petit peu de l'instrument, Philippe Brunet, mais peut-être tout de suite l'extrait, de quoi s'agit-il ?
Il s'agit d'Ajax, Aias, comme il est dit en grec, comme je traduis, c'est le seul nom que j'ai vraiment modifié, Aias, le Télamonien, le fils de Télamon, se trouve sur le rempart. Sur quel rempart ? Paradoxalement, ce n'est pas le rempart de Troie, mais le rempart achéen que les Achéens ont construit pour se protéger de l'assaut des Troyens emmenés par Hector. Et c'est un moment de combat.
Philippe Brunet, vous êtes devant nous au studio et vous tenez votre lyre, tel Homère. Vous avez les cheveux longs d'ailleurs, tel Homère. Et on va dire un mot de cet instrument qui semble effectivement lui aussi tiré de la Grèce antique. Une lyre à cinq cordes.
Voilà. Jamais je n'aurais pensé qu'un jour je pourrais avoir cet instrument dans les mains. Et j'avais déjà vu des archéologues reconstruire des instruments et proposer de très très belles reconstructions. Mais je n'avais jamais imaginé d'abord le faire moi-même. Et ce n'est pas du tout comme ça que les choses sont arrivées. Je me promenais un jour dans une rue d'Addis Abeba où... on était en train de tourner Édipe Roy, et j'étais censé jouer Édipe à ce moment-là dans la rue. Et bon, un projet qui, pour l'instant, n'a pas abouti. Quand tout à coup, j'aperçois, suspendue à la vitrine d'une échoppe, une lyre grecque, comme j'en avais vu seulement sur les vases grecs. Et donc je suis entré, j'ai vu que la lyre était en bois, elle avait des bras, comme les lyres antiques, une traverse en bois également, elle avait des cordes qui s'attachait à la traverse par des espèces d'anneaux, qu'en grec on appelait des collopes. Elle avait, ou n'avait pas d'ailleurs, de chevalet, le chevalet étant amovible. Elle était recouverte de cuir, j'ai appris plus tard que c'était du cuir de vache.
Et en dessous, la caisse de résonance, qu'est-ce que c'est ? C'est
du bois ? La caisse est en bois, parfois dans une carapace de tortue. Et ça, c'était tout à fait étonnant. C'est donc, j'ai découvert qu'en fait, alors que toute la tradition occidentale avait perdu la lyre.
Les Éthiopiens l'avaient conservée.
Voilà. C'est étonnant. C'est-à-dire qu'on a conservé le luth, on a conservé des traditions d'instruments à manches, on a conservé la harpe avec des longueurs de cordes différentes, mais on n'a pas la lyre, alors que la lyre n'est qu'un symbole pour nous. Et en fait, il y a un coin en Afrique, en Éthiopie, en Érythrée, au Soudan, au Kenya, où la lyre existe encore et il y a encore des gens, des chanteurs qui travaillent, qui chantent avec la lyre pour s'accompagner.
Alors Philippe Brunet, cette Iliade, nous l'avons lue les uns et les autres dans des versions condensées. Il y a cette fameuse collection, je crois qu'on a tous lu enfant, Contes et légendes. Et on a donc l'histoire de l'Iliade, on a le souvenir de quelques héros. Ce sont souvent des souvenirs très lointains. Et je m'en suis rendu compte en lisant donc cette nouvelle traduction de l'Iliade qui vient de paraître aux éditions du Seuil, à quel point... Moi, j'avais oublié cette histoire-là. Et la plupart des choses que je savais sont en fait tirées de l'Odyssée. C'est-à-dire qu'on a l'impression que des deux, du tandem, il y a d'Odyssée, et on verra qu'il y a des parallèles. L'Iliade semble être aujourd'hui un peu le parent pauvre.
Oui. Oui, l'Iliade est beaucoup plus difficile à lire, parce qu'elle ne peut pas se lire comme un roman. Alors que l'Odyssée, à la limite, peut se lire comme un roman d'aventure, les aventures d'Ulysse, les voyages d'Ulysse.
Oui, c'est une dérive, en fait, avant de rentrer chez soi.
On suit tous les épisodes, les uns après les autres, c'est romanesque.
Alors que l'Iliade, finalement, c'est un récit d'un combat, enfin plutôt d'un camp retranché, en face des murs de Troie, et il ne se passe pas énormément de choses, et en plus, l'essentiel du récit tient non pas aux affrontements, aux batailles, mais plutôt aux divisions du camp grec, notamment la fameuse querelle d'Achille et d'Agamemnon. Donc c'est quelque chose d'assez particulier, c'est pas vraiment un grand récit qui vous emporte dans des aventures.
Oui, et c'est même une épopée où on ne prend même pas la ville de Troie, alors qu'on est censé combattre pour la prendre.
L'épisode du cheval, il est dans l'Odyssée, il n'est pas dans l'Iliade.
A posteriori dans l'Odyssée, oui. Et l'Iliade, non, l'Iliade, on est devant la citadelle. On rêve de la prendre et on n'y arrive pas. C'est ça qui est magnifique. On désire reprendre Hélène et on est venu avec des armées innombrables pour combattre et reprendre la plus belle femme du monde, la fille de Zeus. Et ce combat est impossible.
Et en attendant, on se déchire.
Voilà. Et on se lamente. Et on pense que ça fait d'abord 9 ans qu'on est là, qu'on ferait mieux de rentrer chez soi et qu'on n'arrivera jamais à faire ce qu'on veut faire. Donc c'est quelque chose de... une espèce d'épreuve pour la volonté. Et puis, il y a cette verticalité magnifique du rempart troyen. Et la plaine de Troie, et puis la mer. La mer avec ses rumeurs. Lorsque le héros s'enferme dans sa douleur, Achille, il est au bord de la mer, au bord de la plage.
Alors il a deux douleurs en fait, Achille. Il a la douleur de cette captive qu'il adore et qu'il est obligé de céder à Agamemnon, Briseis, d'où l'origine de sa querelle avec Agamemnon, qui il juge être un chef abusif. Et puis après, par l'enchaînement des faits, il va avoir la douleur de la perte qu'il provoque, en grande partie d'ailleurs par son retrait, la perte de son ami Patrocle.
Oui, la vraie douleur, c'est la perte de Patrocle. La première douleur, si je puis dire, ce n'est pas vraiment un chagrin d'amour. Mais c'est plutôt le sentiment d'avoir été bafoué. Lui, le meilleur des Achéens. C'est-à-dire que dans une échelle de valeur, c'est Achille qui est en tête de toute l'armée achéenne. Mais du point de vue du pouvoir et de la légitimité que donne à Agamemnon son sceptre qui lui vient de Zeus, alors il n'est pas le premier. Et il l'apprend à ses dépens. Mais en bafouant la valeur d'Achille, Agamemnon commet une erreur. Et il va conduire donc toute son armée au désastre que l'on sait. Et donc c'est par ce désastre que Zeus va faire payer aux Achéens et à Agamemnon l'honneur bafoué d'Achille. Malheureusement, pour qu'il rentre au combat, il doit perdre ce qui est là de plus cher, ce qui est la meilleure partie, ce qui est son autre lui-même en fait, Patrocle, son compagnon Patrocle, qui n'est pas son cousin, comme dans le film américain Troy, bien sûr, mais qui est son ami, et un ami plus âgé, on l'ignore parfois, parce que ensuite on a réécrit l'histoire à l'époque de Platon, par exemple, en pensant qu'Achille est le mignon de Patrocle, ou le contraire. Enfin, Achille est plus jeune, c'est sûr, dans l'Iliade.
Et dans un parallélisme tragique, on voit aussi les héros troyens dans leur splendeur, et notamment Hector, qui est aussi glorifié, puisque l'Iliade, vous le dites justement dans votre préface, au fond, c'est de donner les noms de ces héros pour qu'ils ne meurent jamais. C'est-à-dire que les cités, c'est leur donner une sorte de vie éternelle. Alors on cite aussi Hector, le Troyen, et avec une espèce d'équité. C'est-à-dire que Hector est autant respecté et autant voué à la postérité que les héros achéens.
Oui, Achille a une mère déesse, divine, Alors qu'Hector, lui, est issu de parents mortels, sont le roi et la reine de Troie, Priam et Hécube. Mais Hector, son nom signifie celui qui tient la ville. C'est à lui seul le rempart de la ville. Évidemment, on ne prend pas la ville de Troie, mais on sait que la mort d'Hector va signifier la prise de la ville. Donc par anticipation, Homère, en creux, et toujours d'une manière très subtile, arrive à dépeindre l'intégrité, la totalité de la fresque épique, en fait. Mais sur un petit moment, une parenthèse, jamais on n'aurait imaginé qu'il fallait que le meilleur guerrier achéen, dans son épopée, soit assis par colère, par dépit, furieux, et refuse de ne pas reprendre part au combat. Et en fait, c'est ça qu'il fait Homère. Il écrit une contre-épopée. En fait, il écrit une anti-guerre de Troie. C'est ça qui était tout à fait étonnant.
Et dans cette histoire, en parallèle toujours, parce qu'il y a comme des couches superposées, il y a ce monde des dieux. Et ce monde des dieux n'est pas un monde lointain, éloigné. C'est ça que moi j'ai redécouvert en relisant l'Iliade, enfin en la lisant pour la première fois dans le texte, mais en relisant cette histoire, c'est à quel point les humains sont reliés aux dieux, finalement agissent sur les dieux, car les dieux agissent sur eux, mais la réciproque est vraie. Les dieux peuvent souffrir du fait des hommes. Et il y a comme ça une espèce... Ils sont éternels, c'est la seule différence finalement, c'est qu'ils vivront pour toujours. Mais ils ressemblent étrangement aux hommes dans cet univers grec.
Oui, ça c'est... Ils sont tout à fait humains dans leurs sentiments. Et les hommes, en même temps, en créant ces dieux, accèdent à une humanité magnifique, sublime, mais qui a aussi ses travers. Les dieux sont jaloux, ils ont leurs petits sentiments, leurs querelles, comme les hommes. Et on ne peut pas se détacher évidemment des dieux, ça serait une erreur de le faire. Mais si l'on prend Aphrodite, la déesse de l'amour, elle a son camp. Et son camp, c'est celui de Troie, évidemment. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que la guerre arrive par le camp achéen pour détruire cette ville élue par la déesse de l'amour. Donc Troie va symboliser non seulement l'amour, mais au-delà même... Tout ce qui est fécondité, prospérité, beauté, de la paix, harmonie, de l'agriculture. Et c'est ça que la guerre va détruire. Voilà. Alors que d'autres dieux, Héra, Athéna notamment, vont prendre parti pour les autres. Et pourquoi ? Eh bien, l'origine, ça c'est dit dans l'Iliade, même si ça n'est pas raconté, ça n'est pas l'épopée qui raconte le jugement de Paris. Mais on rappelle qu'autrefois, les déesses ont voulu concourir dans un concours de beauté et ont demandé au jeune prince Paris de choisir qui était la plus belle.
Alors Philippe Brunet, en vous écoutant et en lisant cette traduction de l'Iliade que vous venez de faire paraître, effectivement, on comprend à quel point cet univers, quand on y plonge vraiment, avec les bons outils, peut-être avec les bonnes traductions aussi, peut vous marquer à jamais. En tout cas, cet univers a marqué à jamais Jean-Pierre Siméon, qu'on retrouve, poète, auteur dramatique, l'auteur de Philoctète.
Ce qui me reste de ma fréquentation des tragiques grecs aussi, n'est-ce pas, du théâtre grec, et puis de la grande aventure, l'Iliade de l'Odyssée, ce qui me reste, c'est cette franchise de l'imaginaire, je ne sais pas quoi, cette liberté absolue dans l'invention. Il y a quelque chose qu'on a perdu, de l'épique, du lyrique, de l'audace d'écriture et d'invention, je pourrais dire. Moi, j'ai tellement ressenti, pour ma génération, dans ce que je lisais de contemporain, quelque chose d'un peu étroit, d'un peu resserré sur le travail formel, vous savez bien. On pèse tout dans l'écriture, le ci et le ça. Le moindre geste d'invention est tellement prémédité, intentionnel, avec la mesure de toutes les conséquences. Enfin, je trouve que dans ce que j'ai éprouvé, moi, dans la littérature grecque, il y a cette liberté, cette franchise dont je parlais tout à l'heure, une franchise, quelque chose qui est sain, quoi, une vitalité. Et c'est ça qui m'importe et que j'essaie de retrouver, moi, au-delà des figures, et bien sûr, des figures qui nourrissent mon travail d'écriture, mais j'essaie de retrouver ça, d'abord. Et puis, il y a pour le théâtre, par exemple, en puisant à la source grecque, il y a la volonté de trouver un point d'appui, un antécédent fort à ce travail que j'essaie de faire, c'est-à-dire de réinventer à ma manière, pour le temps d'aujourd'hui, une poésie de théâtre. Or, les premiers à avoir fondé ça, ce sont évidemment les Grecs. Et puis, il y a du théâtre dans Homère, il y a bien sûr beaucoup de théâtre, on le sait. Donc, il y a là tout un, comment dire, un réservoir, je pourrais dire, de figures, de formes, mais même aussi de scénarios, si je puis dire, qui sont évidemment immédiatement disponibles. Et moi, je n'ai pas appris le grec. Je n'ai pas lu le grec, donc je n'y ai accès que par des traductions, mais ça, à travers la traduction, on perçoit le génie des langues d'origine. Et cette force qui est cette ampleur de la langue.
Sur France Culture, aujourd'hui, nous revisitons l'un des grands textes fondateurs, l'Iliade. Nous sommes en compagnie de Philippe Brunet et à l'instant, nous entendions le témoignage de Jean-Pierre Siméon. Philippe Brunet est helléniste, il joue de la lyre, il nous propose une nouvelle traduction de l'Iliade. Il vit l'Iliade au quotidien, il la vit avec sa sensibilité, sa voix, vraiment dans une espèce d'empathie complète. Alors Philippe Brunet, on va passer peut-être à quelque chose tout de même... vous êtes aussi un érudit autour de la création homérique. On aimerait profiter de cette connaissance que vous avez pour vous poser des questions qu'on se pose depuis des générations et qui concernent Homère, qui concernent ce texte. À quel moment a-t-il été mis par écrit, puisque c'est au départ un poème épique transmis oralement. Et est-ce qu'on sait quelque chose de ce fameux Homère dont on a dit qu'il était aveugle, mais certains disent que non, que c'est une espèce de cliché. Alors, est-ce qu'on peut faire le point des connaissances autour de tout ça ?
En un mot.
Aujourd'hui, ça va sûrement encore évoluer.
Oui, en fait, peut-être qu'aujourd'hui, on a du mal à le comprendre, mais... Justement parce que c'est aujourd'hui. Donc il faut s'arracher à aujourd'hui pour comprendre ce que c'est qu'Homère. Homère, c'est quelqu'un qui se souvient. C'est une tradition de mémoire. Homère, d'une certaine manière, n'invente rien. Il peut dire la liste des chefs des bataillons achéens tels que on les a chantés plusieurs siècles avant lui.
Alors ça, c'était le but souvent de la poésie épique, c'est-à-dire il y a une sorte de généalogie souvent. Mmh. C'est un monument, en fait, funéraire.
Voilà. Ça veut dire que les mots qu'il emploie, les noms qu'il utilise, sont les noms et les adjectifs connus de tous. Et puis, souvent alignés dans un ordre qui est immuable, en quelque sorte. Et curieusement, si on dit qu'il est aveugle, c'est parce que l'époque à laquelle on le fait exister, ce serait autour du 8e siècle. C'est-à-dire, toutes ces cités, d'Ionie, la côte éolienne, Smyrne, Milet... Bizarrement, lui, Homère, dans sa poésie, dans l'Iliade et dans l'Odyssée, n'en parle pas. Donc il est aveugle au présent. Il refuse d'être contemporain de son présent. Alors que tout le monde aujourd'hui veut être contemporain de son présent. Sauf, enfin, pas tout le monde, justement. Moi, je suis contemporain d'Homère. C'est-à-dire, est-ce que c'est possible d'être, de refaire? Évidemment, on revisite. On veut revenir. On veut revenir à Troie, comme Alexandre le Grand. Il a voulu être le premier à descendre du bateau. Comme Protésilas. Protésilas dont Homère nous raconte que dans l'Iliade, lorsqu'il pose le premier, le pied sur le sol troyen, il est fauché par la lance d'Hector. Et il meurt. Et il le savait. Et Alexandre veut être le premier à recommencer cela. Et c'est aussi pour ça qu'un jour, des traducteurs ont voulu reprendre. Autrement dit, faire exister à nouveau, recommencer. Ça s'appelle l'imitation, la mimesis. C'est une manière, c'est la représentation. Les Grecs ont créé le théâtre. Le théâtre, c'est aussi faire revivre. On peut faire revivre Philoctète. Tersiev a fait revivre Philoctète de manière inoubliable, ça c'est sûr.
Est-ce que Homère a vraiment existé ou est-ce que c'est un condensé de plusieurs personnes?
Oui. Comment voulez-vous qu'une tradition bardique, multiforme, s'étalant sur plusieurs générations, puisse composer un poème tel que l'Iliade avec autant d'audace et de personnalité, d'originalité? C'est ça la question. Si on admet que plusieurs aèdes puissent se transmettre un savoir, il y a quelque chose comme cette matrice extraordinaire qui, elle, est conçue. Alors je ne sais pas, est-ce que ça a un sens? Homère est le nom qu'on donne à celui qui crée, ou à cette tradition qui crée. ça n'a pas tellement de sens de dire est-ce qu'il a vécu à tel moment, à quelle année exactement. Après, à quel moment il a été écrit, c'est encore une autre chose. Autrement dit, est-ce qu'il a été composé avec l'aide de l'écriture ou pas?
Alors,
il est évident qu'il a été chanté, mémorisé, qu'il a été improvisé, qu'il a été, comme dans toutes les traditions orales, mais qu'à un moment, sans doute, l'écriture est peut-être ce qui permet à Homère d'inventer quelque chose qui est l'Iliade, qui n'est pas exactement la tradition, la vieille guerre de Troie, mais qui est ce récit complètement bizarre qu'il invente. Et il invente, par exemple, au chant 12, ce rempart achéen que les Troyens veulent prendre et qu'ils parviennent à prendre avec Hector et Sarpédon, c'est une ruse de Nestor qui s'élabore au chant 7 pour protéger le campement achéen. Cette ruse, c'est la signature d'Homère. Le retrait d'Achille, c'est la signature d'Homère. C'est faire que tout à coup, l'épopée puisse naître du récit impossible. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très particulier et qui n'est pas justement le résumé de mythologie qu'on nous serine. Ou le film qu'on nous montre toujours le même. Enfin,
oui, on prend les personnages et puis on en fait une espèce de scénario de bande dessinée.
Jusqu'à la prise du mur.
Allégé, enfin c'est du light par rapport à la densité du texte original. Bon, ça a le mérite de nous familiariser avec les personnages. Alors, deuxième question, Philippe Brunet, justement, puisqu'on essaye, comme vous êtes un grand savant en matière homérique, on essaye de faire le point sur les connaissances, puisque ce texte et l'Odyssée aussi ont beaucoup intrigué. Alors, déjà, ce rapport Iliade Odyssée, Homère serait-il l'auteur des deux textes, d'un seul des deux textes?
On sent bien que l'Odyssée est très différente de l'Iliade. Elle est différente dans sa conception, elle est différente dans son écriture, dans les images, parfois même dans sa langue. Et on a envie de dire, l'Odyssée est
c'est
plus récente. Voilà, c'est la suite, donc elle est plus récente que l'Iliade.
C'est la suite de l'histoire aussi. Voilà.
Alors les Grecs avaient une chose très jolie, Longin disait... Homère a composé l'Iliade dans sa jeunesse, dans le feu de la jeunesse, devant l'événement, la ville de Troie qu'il faut prendre. Et puis ensuite, il a composé l'Odyssée, lorsque, dans
il
sa vieillesse.
Souvenu.
Il s'est souvenu, voilà. Mais, à vrai dire, c'est vrai que l'Odyssée est très triste, très nostalgique, et qu'elle raconte quelque chose qui est... On est après l'événement, et c'est très difficile de vivre après. Qu'est-ce qu'on va faire, une fois que la ville est prise? Et donc, c'est ça, l'Odyssée.
Dans votre préface, Philippe Brunet, vous mettez en relief, et aussi dans un texte d'ailleurs à la fin du livre, vous mettez en relief le parallélisme des deux textes, c'est-à-dire qu'ils sont très différents, vous venez de nous le dire, mais en même temps, il y a une structure similaire, quand on cherche bien, quand on gratte la surface, entre l'Iliade et l'Odyssée. Ça aussi, ça pourrait signer le fait que c'est bien Homère qui a fait les deux.
Alors en fait, bon... J'avais un maître en carême, Pierre Fortassier, pour ne pas le nommer, qui d'ailleurs était beaucoup dans la diction des vers. C'est lui qui m'a appris à dire aussi bien des alexandrins qu'à scander des hexamètres. Et lui nous disait, et je m'en suis toujours souvenu, que l'Iliade et l'Odyssée avaient la même structure. Commencement de l'action au chant 5 après 4 chants d'introduction, dénouement au chant 16, conclusion au chant 22 avec la mort d'Hector ou le massacre des prétendants dans l'Odyssée. Et puis un jour, j'ai été frappé par un certain nombre de parallèles internes thématiques. J'en ai parlé d'ailleurs. Lui, il ne pensait pas. Il voulait rester son idée de construction parallèle.
Mais moi, même dans le détail, vous avez découvert
oui, mais c'est
un effet miroir entre les deux textes, quoi.
Voilà. Ouais. Il se trouve que, pour comprendre le rapport entre les deux poèmes, au chant 19 de l'Iliade, Thétis apporte de nouvelles armes pour Achille, puisqu'Hector a pris les armes que Patrocle avait empruntées à son ami. Au chant 19 de l'Odyssée, Ulysse demande à Télémaque d'aller chercher dans le placard les vieilles armes rouillées. Donc voilà, c'est ça le rapport. C'est impossible de voilà, il faut poser toujours ce rapport-là. Et il y a beaucoup d'autres parallèles.
Philippe Brunet, on va encore une fois laisser chanter Homère, soit en français, soit en grec, comme vous le voudrez. Alors peut-être un mot sur le passage que vous choisissez.
La prise du mur, le même passage, en français. Donc... le moment où cette limite imaginaire qu'Homère a construite, cette invention, ce mur qui sera effacé, que Poséidon conteste, qui refuse la création de ce mur, cette création humaine. Et ce mur, c'est l'Iliade, en fait, en quelque sorte. Les Troyens attaquent. Partout créneaux et remparts ruisselaient du sang des victimes, que versaient Achéens et Troyens d'un côté ou de l'autre. Il ne pouvait acculer les Achéens à la fuite. Il tenait bon comme une femme. Ouvrière infaillible, tient la balance en équilibrant le poids et la laine, et n'obtient pour nourrir ses enfants qu'un maigre salaire. Ainsi conflit et combat se tendaient dans un juste équilibre, jusqu'au moment où Zeus offrit à Hector Priamide une gloire plus grande. Il franchit le premier la muraille. Il appela les guerriers troyens d'une voix claironnante. Bondissez, cavaliers troyens, brisez la muraille. Des Achéens éboutaient un feu prodigieux au navire. Il les encourageait et eux tout ouïe l'entendirent. Ils fonçaient tout droit vers le mur en masse et ensuite escaladaient les saillies en tenant leurs lances tranchantes. Alors Hector se saisit d'une roche devant la porte. Elle était épaisse à sa base, mais à sa pointe, effilée, deux mortels n'auraient pu, les meilleurs de leur peuple, la porter aisément du sol sur une charrette. Deux mortels d'aujourd'hui, mais lui la leva sans problème. Elle était allégée par le fils de Cronos, ruse torse. Comme un berger d'une seule main soulève la laine. La toison d'un bélier, ce fardeau ne lui pèse plus guère. Ainsi, Hector la porta jusqu'au venteau de la porte, qui se joignant maintenait la porte fermement close, avec ses hauts battants. Deux barres complémentaires l'assuraient au-dedans. Une clé s'adaptait, une seule. Il s'arrêta devant, brandit puis lança cette roche. En écartant les pieds pour rendre le geste plus ferme, il brisa les deux gonds et la roche croula sous sa masse. À l'intérieur, la porte mugit, les barres ne surent résister, les venteaux de part et d'autre éclatèrent sous le choc de la roche. Hector bondit le splendide, d'aspect semblable à la nuit rapide. Le bronze terrible étincelait qui couvrait son corps, il tenait ses deux lances dans ses deux poings et nul n'aurait pu contenir son attaque, hormis les dieux quand il franchit la porte. Ses yeux s'enflammèrent. Il invita les Troyens, en se retournant dans la foule, à sauter le mur. Ceux-ci obéirent à l'ordre. Vite, les uns sautèrent, les autres, passant par la porte, bien bâtie, s'engouffrèrent. L'armée d'Anaën en déroute fuit au navire creux. En jaillit un immense tumulte.
Philippe Brunet, merci avec votre lire de dire pour les auditeurs de France Culture donc cette traduction de l'Iliade que vous avez voulu vocale. C'est-à-dire que on imagine que votre travail de traducteur s'est fait à voix haute finalement.
Oui, même parfois j'avais renoncé au fait d'écrire et j'avais pris un petit magnétophone et j'enregistrais. Et puis c'était un moment où oui, j'avais besoin d'entendre les choses. Et puis, par exemple, j'avais commencé à m'enfermer dans les bibliothèques pour enregistrer des textes que je n'avais pas le courage de saisir, ni de photocopier. Et souvent, parfois, des livres de la Renaissance aux reliures un peu fragiles. C'est comme ça que j'avais enregistré une grande partie de la traduction de d'Uxalel. « Je te supplie, déesse gracieuse, vouloir chanter lyre pernicieuse, dont Achille fut tellement épris, que parissèlent un grand nombre d'esprits, des princes grecs par dangereux encombres. » Philore descente aux infernales ombres, et leurs beaux corps privés de sépulture furent aux chiens et aux oiseaux pâture, etc. Et voilà, il fallait l'entendre en décasyllabes, comme le Roland. Et puis ensuite, à partir de cette carrure de 1, 2, 3, 4, essayer de trouver cette carrure dans le français pour qu'on puisse atteindre, en le développant, du coup, l'hexamètre. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Chante déesse d'Achille, fils de Pélée, la colère. Chante déesse, lyre d'Achille, Péléiade. Quel vers préférez-vous ? Ire funeste qui fit la douleur de la foule achéenne. précipita au fond de l'Hadès nombre d'âmes vaillantes, de guerriers livrant aux chiens leur corps en pâture, aux oiseaux en festin, achevant le destin du Cronide. Le dessin du Cronide. Voilà, la haine se trompe.
Je signale d'ailleurs que vous dites de mémoire. On peut imaginer que vous connaissez des milliers de vers par cœur, parce que cette poésie orale, elle a aussi des aspects mnémotechniques, elle est facile à mémoriser. Et vous jouez beaucoup sur les temps forts, c'est-à-dire que ça nous sort de l'alexandrin métrique. On est sur un certain nombre de temps forts. On est dans la musique.
On est dans la musique.
On n'est plus dans les mathématiques.
Bon, l'alexandrin est aussi dans la musique, mais il va vers 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Disons qu'il descend. Et le travail de l'hexamètre, c'est de redresser sur l'accent premier de la première syllabe. Même si le mot, le péléide, voilà, même si le mot ne, par lui-même ne comporte pas d'accent tonique. Et donc c'est tout l'enjeu de redresser un peu la langue française, de l'inverser à nouveau, la faire repartir du début, de l'élan initial.
On voit Philippe Brunet à vous écouter, à vous entendre, que c'est un travail de traducteur très, vraiment très spécifique sur l'Iliade que vous avez élaboré. Et alors, ça va même plus loin, puisque comme vous présentez l'Iliade sur scène, aussi l'Odyssée d'ailleurs de temps en temps, ce texte est évolutif. C'est-à-dire que vous, en tant que traducteur, vous n'êtes pas cramponné à la traduction qui paraît ces jours-ci, donc l'Iliade, édition du Seuil, octobre 2010. Vous dites d'emblée, eh bien... on peut faire évoluer cette traduction. Et si quelqu'un vous apporte, à la faveur comme ça d'un emportement sur scène, une nouvelle traduction plus pertinente, vous l'accepterez. Elle n'est pas figée.
Oui, bien sûr.
Parce qu'elle est impulsée par l'oralité, par les ressources propres de la vocalisation.
Voilà, mais je sais pas, j'ai dit le début de l'Iliade, mais je ne sais plus quel texte que j'ai dit d'ailleurs. Mais je ne pense pas que ce soit le texte imprimé, en fait. Et c'est tout le temps comme ça. Et en fait, même si on lit, même si on a un support, parce que c'est vrai que j'ai pas tout mémorisé, et on lit, et on a envie de changer. C'est une espèce de démon qui a besoin de reformuler les choses. Et peut-être que la traduction est un des ateliers comme ça de la muse épique. Enfin, ça serait le rêve. Mais pour qu'il y ait travail, on parle beaucoup du traducteur, du poète, de l'aide, il faut un public. Et pour ça, ce qui est très intéressant dans le cas de l'épopée, c'est que le public il connaît les noms, il les entend. Et ensuite, il reconnaît les épithètes. Et en fait, du coup, il co-énonce le texte. Et c'est ça qui est magnifique. Quand on dit l'Iliade, c'est que tout à coup, le public, tout le monde, peut-être, les auditeurs, je ne sais pas, se retrouve à un moment dans le même cercle.
C'est presque comme un concert de rock aujourd'hui, où il y a tout Bercy qui est en train de reprendre le refrain.
Voilà, c'est ça.
Alors cette oralité, elle semble essentielle à Jean-Pierre Siméon, qu'on va encore une fois retrouver, puisque lui, il est malheureux, et il n'est pas tout seul d'ailleurs à être malheureux, de voir à quel point la poésie a perdu le contact avec l'oralité, ce qui explique peut-être que d'ailleurs plus personne ou très peu de gens lisent de la poésie, parce que la poésie, il faut peut-être surtout l'entendre, Jean-Pierre Siméon.
Moi, je crois que l'oralité, elle est inscrite dans le texte, évidemment, et qu'elle fait l'immense séduction du récit. Parce que ce n'est pas un récit à plat, c'est un récit en relief. Et c'est le relief de la voix qu'on entend. Il y a sans cesse des incantations, des interpellations. Et ça remue dans le texte, sans cesse. Il est rare qu'on ait des descriptions, vous savez, comme la modernité de chez nous l'a inventé, des descriptions précises, comment je pourrais dire, épaisses, etc. Non, c'est quand même emporté, c'est vif. Et ça, c'est lié effectivement à l'oralité. C'est lié à l'homme debout qui parle et c'est bien sûr lié à toute l'oralité universelle de l'homme qui se dresse dans la communauté et qui raconte et incante en même temps, parce que il y a un appel en même temps dans le récit. C'est-à-dire que le récit n'est pas simplement l'exposé de faits, mais il est doublé de mystère et il interpelle le mystère. Et c'est ça que j'appelle l'incantation. Donc ça, c'est très propre, à mon avis, à ce ton homérique. C'est-à-dire à la fois le récit d'histoire et en même temps, derrière, toujours, qui ourle l'histoire, l'incessant mystère qui est appel devant l'énigmatique, au fond, devant le quoi faire, le comment, le où, où je vais, d'où je viens, où je suis, tout ce qu'on nous disait tout à l'heure, voilà. Et c'est ça qui rend passionnant. Au fond, on écoute vraiment une histoire quand on n'en sait pas la fin, c'est-à-dire quand il y a de l'énigme, quand il y a du mystère, quand on se... Comment je veux dire, c'est l'histoire du suspense, au fond, qui est un grand ressort, c'est-à-dire, même si le suspense, il n'est pas forcément comme on connaît dans le policier, c'est-à-dire s'il s'agit de questions pendantes, latentes, mais que nous avons tous, et que ces questions sont posées, se dire, enfin, on va peut-être avoir quelque chose comme un bout de réponse, quoi. Il n'y en a pas, c'est pour ça que c'est interminable, l'Iliade et l'Odyssée. L'homme, quelles que soient ses guerres, ses affrontements personnels, collectifs, il ne trouvera pas, moi je crois, nous sommes tous donc portés sans cesse, inévitablement, de lieu provisoire en lieu provisoire. Et je parle là de questionnement provisoire en questionnement provisoire et de réponse provisoire en réponse partielle. Mais en ce qui me concerne, je crois qu'aujourd'hui, justement, on a besoin de retrouver le champ de la aide. Moi, je crois profondément. Et si, pour ma part, je travaille comme poète au théâtre depuis maintenant 15 ans, c'est parce que je crois que c'est un des lieux où j'ai pu donner à ma passion de la poésie cette dimension-là. C'est-à-dire retrouver ce vrai rapport de lien humain direct, de relation humaine au poème. Vous savez ce que disait Paul Celan, je ne vois pas de différence de principe entre un poème et une poignée de main, ça a été beaucoup glosé, mais c'est bien de relations humaines dont il s'agit. C'est-à-dire que même Paul Celan écrivait une poésie savante, et magnifiquement savante, et souvent difficile d'accès, il revendique cette relation humaine. Si cette relation existe, même le difficile, voire l'énigmatique, nous est proche.
L'Iliade, c'est le deuxième de ces textes fondateurs que nous revisitons cette année dans Tout un monde sur France Culture. Il y en aura d'autres au fil de l'année. Nous écoutions à l'instant Jean-Pierre Siméon et avec nous en studio se trouve Philippe Brunet, donc, qui nous propose, ça vient de sortir, une nouvelle traduction de l'Iliade, une Iliade oral, chanté, psalmodié, et d'ailleurs Philippe Brunet, vous avez dans les mains encore votre lyre, vous nous disiez éthiopienne tout à l'heure, mais trouvée en Éthiopie et conforme à la tradition grecque, donc ça fait de vous pratiquement un aède des temps modernes, puisque Jean-Pierre Siméon disait à l'instant, nous avons besoin d'aède. Un aède, donc, c'est quelqu'un qui chante la poésie, qui s'accompagne, qui est dans son corps, qui est face au public. Quelle était la fonction de l'aède au temps homérique? Est-ce qu'il avait une fonction religieuse? Est-ce qu'on sait d'abord quelle était sa place dans la société?
C'est dans l'Odyssée qu'on voit des aèdes, Phémios et Démodocos. Démodocos, un peu un serviteur. Alors bien sûr, c'est l'espèce de portrait d'Homère, puisqu'il est aveugle, mais il chante, il se souvient, il chante à la demande.
Ça serait l'autoportrait d'Homère, en fait.
Oui, souvent, on a créé des biographies d'Homère, comme ça, d'après l'image un peu de Démodocos, oui. Maintenant, Achille aussi chante sur sa lyre d'argent. Une cithare, kithara, une grande lyre qu'il a prise, c'est son butin, il a prise en tuant Éthion, le père d'Andromaque, parce que Achille fait le malheur de toute la famille d'Hector. Il ne tue pas seulement Hector, il a déjà tué le père d'Andromaque. Et il chante la geste des hommes, il est assis parce que il ne combat pas, il est condamné à l'inaction. C'est l'Iliade qui s'invente, en quelque sorte, par la lyre d'Achille.
Il s'est condamné à l'inaction pour protester contre la belle captive que le roi Agamemnon lui a prise.
Alors, ce qui est étonnant dans l'engagement aédique, en fait, de chanter cette parole, dire cette parole, c'est le contraste avec le théâtre. Parce que, on sait bien, c'est l'opposition d'Apollon et Dionysos, très très magnifique, construite Nietzsche dans son ouvrage La naissance de la tragédie. Le théâtre investit les apparences. C'est le corps qui brûle, en quelque sorte. C'est tout d'un coup tout l'espace qui devient brillant de lumière, qui irradie. dans le corps de Laëde, lui, est très différent. Un peu comme le corps d'Orphée sur les images des vases grecs. Il s'atténue, il devient moins véhément, parce qu'il doit puiser très profond en lui-même, il doit chercher. Donc, après, il y a un dévoiement de ce chant premier de Laëde, qui est celui de faire la démonstration. Pas ce que je suis venu faire, mais parfois, on a l'impression qu'on nous demande, oui, mais dites, jouez. Mais c'est très, très dangereux, très difficile. Est-ce qu'en jouant, on ne va pas perdre la fonction première de Laëde, qui est juste de se souvenir, juste de dire, pas de parler sur la poésie, pas de se justifier. C'est ça aussi. Et c'est une chose, c'est un rapport qui se crée entre quelques notes de lyre, de krar, rendons aux Éthiopiens leur nom de la lyre, une lyre qui vient de Mésopotamie à l'origine. Dans cet échange entre les sons de la lyre, aussi simple, aussi fruste qu'il soit, on n'est pas encore dans les harmonies très riches et très savantes d'Aristoxène et de la tragédie d'Euripide. Les mots qui viennent et qui sortent peu à peu. Et voilà. Et Homère n'a pas besoin de voir, pas plus qu'il n'a besoin d'être vu, en fait. C'est pour ça qu'évidemment, pour la radio, c'est l'auteur par excellence.
Alors, Philippe Brunet, on va une dernière fois écouter par votre voix, la voix d'Homère.
L'un des passages les plus connus de l'Iliade, où Andromaque retrouve Hector, s'adresse à lui. Hector est rentré pour préparer des rites en l'honneur de la déesse Athéna, afin qu'elle cesse de favoriser Diomède et qu'elle aide un peu plus les Troyens. Et il retrouve son épouse, et il va partir ensuite dans la bataille, et ce sera la dernière entrevue d'Hector et d'Andromaque. Donc c'est Andromaque qui parle. Insensé, ton ardeur te perdra. Sans pitié, tu négliges. Et ton enfant petit, et moi, ton épouse dolente, bientôt veuve de toi. Les Achéens tous ensemble viendront t'oxyre sous peu. Pour ma part, il serait préférable, en te perdant, de rentrer dans le sol. Je n'aurai jamais d'autre réconfort quand la destinée s'abattra sur ta tête. Rien qu'affliction, je n'ai plus ni père, ni mère vaillante.
Metera de basileuen hupo placoiu leuisei, ten epear deuregagem amalois icteatisin. Absogeten apelus elabon apereisi apoina, patros de megaruisi, Balartimis hio che aira. Hector atar simoiesi pater cae potnia mater, ed ecasignetos udemoitare ros paracoites. Toi, Hector, c'est toi mon père et ma mère vaillante, et mon frère, et l'époux florissant qui partage ma couche. Prends pitié maintenant et demeure sur cette muraille. Ne rends pas ton fils orphelin, ni veuve ta femme. Range l'armée devant le figuier, par où notre ville offre un passage, par où le rempart est le plus accessible.
Nelle aire cae aetum in epipyrgoi, me paidor panicon te eis cerent egnaica. Laundes teson parerineon entamalista, ambatus esti polis cae epidromon epletotecos.
Voilà, supplique d'Andromaque à Hector, tiré de l'Iliade, de votre traduction, Philippe Brunet, et c'est vous qui chantiez accompagné à la lire. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Très généreusement, vous avez partagé donc cette passion de mère qui vous anime depuis 25 ans. On aura compris donc cette traduction que vous publiez au Seuil et repose vraiment sur cette oralité, cette passion du texte dit. Je rappelle que donc la compagnie que vous avez créée s'appelle Démodocos, comme ce Démodocos qui serait sans doute Homère dont vous parliez tout à l'heure. On peut connaître l'agenda de cette compagnie qui se produit un petit peu partout en France et à l'étranger sur votre site.
Voilà.
Démodocos.com.
Voilà, parfois, on tarde un petit peu à mettre les choses, mais généralement, on met les programmes.
Merci Philippe Brunet. Donc, on retrouve cette traduction L'Iliade aux éditions du Seuil. Quant à la bibliographie autour de mer, elle est absolument immense. Et nous en donnons quelques extraits, un petit condensé, sur notre site franceculture.com, à la page Tout un monde. Ainsi se termine Tout un monde, le magazine des cultures et des identités en mouvement. À la technique, Valérie Lavalard, à la réalisation, Anne de Pelchin, Tout un monde, avec la collaboration de Claude Armand de Castillo, vous est proposé chaque dimanche par Marie-Hélène Freisset.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 31 octobre 2010. Vous pouvez la télécharger et la réécouter sur la page des nuits via franceculture.fr.